Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir. Loin des scénarios catastrophes qui prédisaient le pire pour l'Afrique, le continent résiste plutôt mieux que les autres à la pandémie de Covid-19. Du moins pour l'instant, car le virus progresse chaque jour. Les pays les plus touchés restent l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud. Les nouveaux cas augmentent aussi depuis quelques semaines en Afrique de l'Ouest, au Nigeria ou encore au Cameroun. Nous allons revenir bien sûr sur les différences entre les pays, sur les spécificités de chacun et essayer de comprendre pourquoi l'Afrique s'en sort mieux jusqu'à présent. Essayez peut-être aussi de voir ce qui se dessine pour les prochaines semaines. Bienvenue dans Décryptage. Deux invités sont avec moi à distance, virus oblige, nous sommes chacun chez soi, mais ensemble, par téléphone. Bonsoir, docteur Emmanuel Baron.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général d'Épicentre, qui est une organisation créée par Médecins Sans Frontières pour mener des actions d'épidémiologie de terrain. Et nous sommes en ligne également avec le professeur François Chapuis, chef du service de médecine tropicale et humanitaire des hôpitaux universitaires de Genève. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, évidemment, c'est impossible de parler de tout un continent dans son ensemble. Quels sont les pays qui sont les plus touchés aujourd'hui, Emmanuel Baron, et ceux dans lesquels le virus progresse le plus rapidement ?
Bien, je crois que vous l'avez dit en entrée, c'est vrai que la situation, elle est particulièrement critique aujourd'hui dans des pays, enfin particulièrement critique, elle est en tout cas plus sensible dans les pays d'Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Alors, l'une des raisons pour lesquelles probablement ces pays semblent les plus touchés, c'est que ce sont des pays qui ont aussi, et c'est l'un des points, je pense, sur lesquels on reviendra, ce sont des pays dans lesquels les capacités de tester sont importantes. En tout cas, les laboratoires sont là, la pratique est là, le matériel est là, et il y a une capacité à faire plus importante que dans d'autres pays. Ça, c'est quelque chose quand même qui a été qui est mis en évidence et qu'on sait. Maintenant, c'est vrai que l'épidémie progresse. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que la situation, si elle ne paraît pas forcément celle qu'on attendait, c'est vrai, moins explosive pour le dire comme ça. Et il n'empêche que le nombre de cas augmente régulièrement tous les jours. Il y a quand même des pays aujourd'hui, je pense au Cameroun ou la RDC, qui sont des pays dans lesquels on voit des nombres de cas augmenter. On a vu un cas où les autos, il y a eu des décès au Soudan du Sud. C'était des choses qui arrivent aujourd'hui, qui sont là, qui montrent que l'évolution, elle est vers un accroissement du nombre de cas avec une certaine hétérogénéité, ça c'est certain.
Alors il y a quelques semaines, beaucoup prévoyaient une catastrophe sanitaire pour l'Afrique, mais pour l'instant en tout cas, le pire n'est pas arrivé. Est-ce que ces discours étaient trop alarmistes ? Est-ce que ces personnes ont eu tort de parler de scénario catastrophe, François Chapuis ?
Écoutez, maintenant on peut dire oui, maintenant on verra ce qu'on répondra dans un ou deux mois. J'espère qu'on continuera à dire oui, à vrai dire, mais je pense qu'il y a certaines caractéristiques du continent africain qui ont permis à cette courbe de progression de l'épidémie, d'être plus lente que ce qui était craint par certains. Et puis peut-être il y a chez certaines personnes, notamment chez les personnes du Nord, une espèce de catastrophisme africain. Voilà, à chaque fois qu'il y a une maladie transmissible, c'est là que ça se passe et c'est là où les conséquences sont les plus désastreuses. En fait, les caractéristiques de ce virus montrent que les conséquences de l'épidémie sont passablement délétères dans les populations âgées du Nord. C'est les populations âgées qui souffrent le plus et c'est de loin quand même le facteur de risque le plus important de décéder de cette maladie.
On aura l'occasion d'y revenir, évidemment, mais si je comprends bien ce que vous nous dites, il y a peut-être une sorte d'afro-pessimisme qui a incité à ce genre de prédictions assez catastrophistes. Alors, on en parlait il y a quelques instants, l'un des enjeux, c'est de tester la population. François Chapuis, quelles sont aujourd'hui les capacités du continent sur ce point et les pays qui sont les mieux équipés ?
Alors, les pays les mieux équipés sont les mieux développés. Je pense qu'en effet, les pays d'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, mais également certaines zones urbaines, hein, à Dakar, on est au Sénégal ou d'autres grandes capitales. Il y a un effort hein, qui est fait du CDC africain, de l'Union africaine, de l'OMS, de déployer ces tests. Ce déploiement de tests a d'ailleurs peut-être une influence également hein, sur le nombre de cas diagnostiqués qui est exponentiel actuellement. Mais je ne pense pas que c'est le seul déterminant. Je pense qu'il y a réellement une transmission qui est active et qui est en croissance, en tout cas dans certaines zones du continent.
Donc un virus qui progresse encore aujourd'hui, mais effectivement peut-être aussi des questions en ce qui concerne les tests. Au Nigeria par exemple, le nombre de tests est jugé insuffisant, même si les autorités intensifient ces dépistages. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les chiffres soient revus à la hausse quand les tests seront plus nombreux, Emmanuel Baron? Ou est-ce qu'en fait on a déjà une assez bonne idée du nombre de malades?
Non, là, je voudrais ajouter juste un petit mot à propos de l'afro-pessimisme. Je ne sais pas s'il y a eu de l'afro-pessimisme, mais il y a eu en tout cas certainement de l'euro-optimisme. Mais ceci est une autre affaire. Sur la capacité à faire des tests, c'est sûr que ça va changer la donne. C'est une remarque qui est, enfin, c'est un élément qui est totalement compris et reconnu par énormément aujourd'hui de pays. Le patron du CDC européen était, je crois, en France aujourd'hui et reconnaissait lui-même qu'avoir fait 1,3 million tests aujourd'hui en Afrique correspondait pas forcément aux besoins. Alors, aujourd'hui, on est quand même sur un mode de réponse à l'épidémie qui nécessite d'identifier les cas et d'être sûr qu'on a un patient atteint de la COVID. C'est vrai aussi que pour répondre à l'épidémie, on peut aussi ne pas confirmer les cas, mais là, on arrive sur un syndrome clinique qui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus compliqué, et affirmer la maladie, c'est quand même toujours mieux de le faire avec un test diagnostique dans les endroits où les infections virales, le paludisme ou d'autres maladies peuvent ressembler à une COVID. Donc oui, les chiffres, pour répondre plus précisément à votre question, oui, les chiffres seront revus. Plus on teste, plus on va trouver. En tout cas, c'est quelque chose qui on a aussi retenu comme leçon de l'épidémie, enfin des premiers mois de l'épidémie en Europe. Hein. Les pays qui ont plus de cas sont aussi les pays qui ont beaucoup testé.
Alors, je voudrais juste préciser, parce que vous en avez parlé tous les deux, le CDC africain, c'est le centre de contrôle des maladies qui fait des points quotidiens et qui, évidemment, échange avec d'autres institutions qui suivent la progression de cette maladie. Vous nous en parliez il y a quelques instants, François Chapuis. L'un des critères très importants en ce qui concerne ce virus, c'est l'âge de la population. Alors, je rappelle que l'âge médian en Afrique est deux fois plus jeune qu'en Europe. Et on sait, effectivement, vous nous le rappeliez, que le Covid-19 est particulièrement grave et meurtrier pour les personnes les plus âgées. Donc là, on peut partir du principe que l'Afrique est sans doute avantagée sur ce point.
Oui, je ne surestimerais quand même pas trop cet élément, mais c'est sûr que vraiment le risque de décès est tellement caricaturalement plus élevé chez des personnes de 70 ans ou plus, en tout cas dans les endroits où l'accès à des soins de qualité sont présents. Cela dit, je mettrais quand même un bémol à ça. On a vu quand même, en tout cas on l'a expérimenté ici aux hôpitaux universitaires de Genève, un temps on avait plus de 400 patients hospitalisés avec des pneumonies, et la plupart des patients qui étaient aux soins intensifs intubés ou qui étaient hospitalisés et qui nécessitaient de l'oxygène étaient des personnes plutôt entre 50 et 60, souvent surpoids, souvent soit diabétiques, hypertendus, avec des problèmes cardiaques. Et ça, c'est quand même des caractéristiques de personnes qui sont en nombre également en Afrique, notamment dans les zones urbaines.
Des facteurs de comorbidité que là, pour le coup, on pourrait retrouver effectivement, en tout cas à certains endroits sur le continent africain. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le virus ait progressé beaucoup moins rapidement qu'ailleurs dans le monde? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, grâce aux mesures qui ont été imposées très tôt par certains États, Emmanuel Baron, des mesures de confinement ou de couvre-feu, par exemple?
Alors, dans les mesures qui peuvent expliquer cette situation, hein, je prends un exemple, l'Ouganda qui a un premier cas identifié le 20 mars et aujourd'hui est à 260 cas confirmés. Donc, et puis, il y a quand même des capacités à tester en Ouganda. Donc, il y a effectivement quand même, on l'a dit, peut-être plus une pente douce qu'une vraie ascension exponentielle de l'épidémie. L'âge de la population, la structure d'âge est un élément qui est souvent mis en avant. D'autres facteurs le sont, effectivement. Moi, je crois que la décision qui a été prise d'avoir un confinement très précoce, hein, des pays comme le Rwanda, l'Afrique du Sud ont mis en place ces mesures avant même d'avoir des décès, hein, chez eux. Il y a très peu de pays d'Europe qui l'ont fait. Donc, c'est vrai que quand on prend cette mesure très extrême, finalement, évidemment, on réduit la transmission de façon très importante et les résultats ont été vus à la fois en Afrique, mais aussi en Europe et ailleurs dans le monde. Une mesure de ce niveau-là, quand elle est prise, même si elle n'est pas parfaitement respectée, même si elle n'est pas toujours suivie de façon homogène par tel ou tel groupe de la population, elle a un impact, ça c'est certain. Évidemment, si on lève le confinement, on repart à zéro, mais on repart quand même. Après, d'autres facteurs peuvent évidemment expliquer aussi cette situation. On a parlé de la capacité à tester, encore une fois. Il y a un mode de vie rural, il y a les transports en commun, probablement moins différents. Vous le savez bien, organisés différemment de ce qu'on voit en Europe, par exemple. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a eu aussi, puis il y a une façon de répondre aux épidémies dans plusieurs pays africains qui ont eu l'habitude d'être touchés, même si, encore une fois, l'Afrique, c'est évidemment, et vous le savez bien, et tout le monde le sait bien, c'est très hétérogène, c'est pas un ensemble unique. C'est donc il y a des habitudes dans certains pays pour répondre, et les structures, les administrations de santé savent aussi organiser, passer des messages. Qui jouent un rôle. Après, ça n'empêche qu'il y a aujourd'hui une épidémie, comme on l'a dit, qui augmente, qui croît, et il y a des enjeux incontestablement pour l'Afrique aujourd'hui.
Vous venez d'évoquer, Emmanuel Baron, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer une progression plus lente que sur d'autres continents dans le monde. Est-ce que cette meilleure résistance, enfin, pour l'instant en tout cas, pourrait aussi s'expliquer par des médicaments qui sont régulièrement utilisés sur le continent? Je pense par exemple à certains traitements anti-palus ou des antiviraux qui sont testés en ce moment dans des essais cliniques un peu partout dans le monde. Est-ce que ça peut jouer par exemple? Alors, ou on ne le sait pas encore?
Quand on dit antiviraux, on pense par exemple à un antiviral qui est en l'occurrence utilisé dans le traitement du sida. Mais là, il faudrait faire des études pour voir si les patients, par exemple, qui sont séropositifs pour le VIH sont plus ou moins infectés. Il y a donc tout un domaine de recherche et d'épidémiologie, de description qui pourrait permettre de répondre à ces questions-là. Et c'est vrai que nous, notre rôle comme groupe de recherche de MSF, c'est d'aller enquêter avec nos collègues des pays dans lesquels on travaille. Il y a toute une coordination qui se fait et qui permet et qui doit nous permettre d'aller répondre, de pouvoir mieux répondre à ces questions. En tout cas, a priori, il n'y a pas d'éléments sérieux pour y répondre. Je peux répondre plutôt oui ou plutôt non, mais en réalité, il faut pouvoir le démontrer. Ça, pas le voilà. C'est en tout cas notre objectif aujourd'hui, c'est de mener ce type d'études.
C'est trop tôt pour le dire. Alors, oui. Vous l'avez évoqué très rapidement, plusieurs pays d'Afrique ont aussi été exposés à des épidémies récemment. Au-delà de l'expérience sur les mesures de précaution qu'on a évoquées, est-ce qu'il pourrait aussi y avoir une sorte d'immunité contre d'autres virus qui pourraient servir aujourd'hui contre le Covid-19, François Chapuis?
Il est vraiment très difficile, hein, de répondre à cette question. On n'a vraiment aucun élément de preuve, hein, qui vont dans ce sens. Est-ce que des infections antérieures à d'autres coronavirus banaux qui provoquent des rhumes, etc., sont plus fréquents en Afrique que chez nous. Honnêtement, on n'a pas les éléments là pour répondre à ça. Par contre, alors une chose qui est sûre, qui a été soulevée par mon collègue d'Épicentre, par Emmanuel, c'est que il y a une expérience, hein, des épidémies de maladies infectieuses qui fait qu'il y a des réflexes d'individus ou dans la communauté de prendre des mesures de protection, hein, quelles qu'elles soient, pour la malaria, de dormir sous moustiquaire ou pour et de ce et pour la rougeole, c'est de suivre vraiment les campagnes vaccinales parce qu'on sait encore ce que c'est la rougeole et ses conséquences. Et puis là, les gens savent, hein, que ce soit relayé par le ministère de la Santé pour les canaux d'information officiels ou simplement beaucoup plus officieux, les gens se sont tenus au courant sur les modes de transmission du Covid par voie aérienne et pour certains, en tout cas, ce réflexe, en fait, de se protéger à titre individuel. Peut-être ça
une
aussi.
Une certaine un expérience qui fait que peut-être les fameux gestes barrières dont on a beaucoup parlé, ouais, ont pu être mis en place et peut-être mieux respectés que dans certains autres pays. Je pense, par exemple, à l'Europe où ça a mis quand même un certain temps avant d'être vraiment mis en place. Alors, le nombre de nouveaux cas, on l'a dit, continue d'augmenter sur le continent africain. Tous les pays du continent sont touchés aujourd'hui, même si, bien sûr, ça n'est pas de la même manière pour tous. Emmanuel Baron, est-ce qu'en fait, ça n'est pas qu'une question de temps avant que certains pays soient atteints aussi durement que l'Italie, les États-Unis ou le Brésil, par exemple ?
Le temps nous le dira, mais par contre, ça montrera qu'il y aura ça montre déjà qu'il y a des enjeux auxquels doivent se préparer les chercheurs des pays africains, des grands centres de recherche qui existent en Afrique se préparent. D'abord, les équipes médicales se préparaient pour avoir de l'oxygène, parce que c'est quand même le médicament aujourd'hui, si je peux l'appeler un médicament, qui manque et qui manquera dans beaucoup d'endroits. Et puis, je vous ai parlé évidemment de tout ce qui sera enquête épidémiologique, mais quand on parle des traitements et quand on parle de se préparer à un nombre de cas, il faut aussi avoir des traitements, donc il faut faire des études. Et là, il y a des synergies en cours aujourd'hui, il y a beaucoup de... il y a des consortiums de groupes de recherche africains et européens qui cherchent à mettre en place des études afin de pouvoir trouver des solutions et répondre à ce possible afflux, parce que finalement, on ne sait pas très bien, mais ce qu'on sait, c'est que s'il y a des cas, il va falloir les soigner, les prendre en charge. Alors, de l'oxygène, des traitements, une capacité à documenter, voilà en tout cas des pistes pour les structures médicales, les structures de recherche et les ministères africains, ils y sont, tout le monde y est, on se prépare. Et puis on se prépare aussi à un autre versant dont on ne parle pas toujours, hein, c'est celui des patients non atteints de Covid et qui sont toujours là. On a parlé des épidémies, il y en a aujourd'hui au Tchad, des épidémies de rougeole, en RCA. L'Ebola même est quand même réapparu aussi dans l'est de la RDC. Donc il y a quand même
donc
des patients.
Donc il y a un certain nombre d'autres maladies,
charge,
bien sûr, à ne pas négliger. Et en fait, cette progression assez lente, finalement, elle permet de mieux se préparer. J'ai une dernière question pour vous, François Chapuis. Il nous reste moins d'une minute, mais j'aimerais bien vous entendre. Le déconfinement commence en Europe parce que les contaminations baissent, ce qui n'est pas le cas sur le continent africain. Et pourtant, là aussi, des mesures commencent à être allégées. Est-ce que, selon vous, c'est trop tôt ?
Écoutez, peut-être d'un point de vue épidémiologique du Covid, dans certaines circonstances, ça peut être trop tôt. Mais le confinement est un tel facteur de paupérisation, que ce soit chez nous et même dans une ville comme la mienne, une ville riche, d'un pays riche, on a vu surgir, liés au confinement, des nouvelles strates de pauvreté dans la population avec des queues par kilomètre pour venir prendre des rations alimentaires. Le confinement global, le lockdown à l'échelle global est extrêmement coûteux et creuse les inégalités sociales de manière caricaturale. Et donc, je pense que, et comme l'a signalé le docteur Baron, on n'aura vraiment rien gagné si on a économisé quelques dizaines de milliers de vies de Covid, si la facture en termes de décès de malaria se compte par centaines de milliers en fin d'année.
Merci, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir participé à cette émission.
Merci.
François Chapuis, chef du service de médecine tropicale et humanitaire des hôpitaux universitaires de Genève, et le docteur Emmanuel Baron, directeur général d'Épicentre, qui est donc une organisation d'épidémiologie de Médecins sans frontières. Très bonne soirée à tous, à demain.